Merci à Pascal pour cette prière pleine d'affection. J'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi réveillés que moi ce dimanche matin. Hein? Alors, effectivement, les jeunes ont été à la Summer Team. Je suis certain qu'ils ont déjà témoigné au cours des semaines qui ont vu. J'ai amené quelques chiffres avec vous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les jeunes sont partis à un camp missionnaire d'environ un peu moins de 2 semaines. Ça s'est passé à Rome, en Italie, hein, où on a vu... environ 34 000 personnes être exposées à l'évangile. Il y a plus de 34 000 personnes qui ont pu entendre le message de l'évangile, et de ces 34 000 personnes là il y en a 1584 où on a enregistré une décision, où ils ont décidé de suivre Jésus dans leur vie. Alors la façon dont on était organisé pour comprendre pourquoi est-ce qu'on prenait ces cartes de contact, c'est parce que on travaillait chaque soir avec des groupes de 20-25 jeunes qui étaient divisés dans 16 endroits dans la ville. Et chaque soir, on travaille avec une église locale dans ces 16 endroits dans la ville de Rome pour que, quand les gens y rencontrent Dieu, ils puissent avoir un suivi. Alors que nous, on repart tous dans nos pays. On était environ 379 jeunes de beaucoup de différents pays. Et on a pu voir, on sait qu'il y a au moins 1584 personnes qui ont pris une décision pour Jésus, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans les cœurs. J'ai l'espoir qu'il y a beaucoup plus qui s'est passé. J'ai aussi vu qu'il y a 284 personnes qui ont pu expérimenter une guérison instantanée dans leur corps. C'est vraiment des choses extraordinaires que Dieu fait quand son évangile est proclamé. Hein? On peut voir que quand l'évangile de Dieu est proclamé, quand Jésus est proclamé, il y a vraiment des choses qui se passent parce que Dieu, il veut attirer l'attention des gens. Il veut dire, attention, ces gens qui amènent ce discours-là, c'est pas juste un discours humain, mais c'est quelque chose de spécial. Donc on a vu des gens qui avaient des douleurs dans leur corps, être délivrés de ces douleurs-là. C'était fait par des jeunes de 14, 15, 16 ans qui priaient pour eux. Et ils étaient aussi étonnés que la personne qui était guérie. C'était vraiment magnifique à voir, hein, parce que ça raffermit dans la foi vraiment de pouvoir voir ça. On dit, oh waouh, il y a Dieu vraiment qui est avec moi, qui vit ces choses-là. Donc moi, quand je vais devant mes amis, devant mes collègues, c'est pas juste moi qui parle, mais il y a Dieu qui est derrière moi. Et ça, c'est vraiment encourageant. Ce matin, j'aimerais parler pour nous ici des points de pression. Des points de pression. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont actuellement sous une pression forte, ou ceux qui ont la vie, où la vie a peut-être l'air un petit peu dure. Je pense qu'il y a toujours des moments dans nos vies où la pression se fait plus forte. Pour moi, c'était après ce camp missionnaire. Hein, j'ai remarqué que j'avais, à cause de différentes raisons d'organisation, on a dû travailler plus que ce qui était prévu, pas qu'on se plaint, hein, mais on a un concert de 5000 personnes à la fin du camp, c'était assez énorme. Et je me suis rendu compte, quand je suis revenu, que la fatigue est tombée sur moi comme un marteau. Et c'était fort, et je me rends compte que alors là, il y a parfois de la pression qui augmente. Parce que quand on est dans des moments vulnérables comme ça, la pression augmente. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de pouvoir parler de ça. Je sais qu'il y a des moments dans la vie où on est un peu sous pression. Je vous invite à prendre la parole dans 2 Corinthiens au chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4. C'est très facile à trouver, c'est juste après 1 Corinthiens. Alors, nous ne nous prêchons pas, à partir du verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Jésus est venu faire briller dans nos cœurs sa lumière. Dieu est venu faire briller dans nos cœurs sa lumière à travers le Saint-Esprit pour qu'on reconnaisse en Jésus, pas seulement un homme, mais véritablement Dieu, lui-même qui se sacrifie pour les péchés du monde, pour nous, qui vient nous aider à nous tourner de l'obscurité à la lumière. Alors c'est vraiment important, le message de l'évangile est vraiment simple. Jésus est venu pour nous aider à retrouver une relation avec le Père, à nous détourner de la direction funeste vers laquelle on se dirigeait. En fait, Dieu nous voyait qu'on était en train de foncer dans le mur en tant qu'humanité, et il a décidé d'intervenir pour nous faire passer de la mort à la vie, pas seulement dans cette vie-ci, mais aussi dans la prochaine. Ce dont je parle, c'est bien sûr mis dans Jean 3, 16 et aussi le verset 17 qu'on oublie parfois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque qui met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Souvent, j'entends pas mal de prédicateurs parfois parler sur l'enfer, et avertir les gens que s'ils ne choisissent pas Jésus, ils vont vers une direction, une mort spirituelle qu'on appelle l'enfer. Alors c'est tout à fait vrai, bibliquement c'est bien fondé, mais parfois on peut inverser les choses et presque commencer à imaginer que Dieu enverrait les gens en enfer exprès, comme si c'était un espèce de père tyran qui décide de punir parce que voilà, il, dans sa fierté il a été blessé. Attention, Dieu c'est le Dieu de l'univers qui est absolument autosuffisant, qui est plein d'amour, plein de grâce, plein de justice. Et il a vu que l'humanité se dirigeait vers quelque chose d'absolument terrible, un destin néfaste. Et il a décidé de faire quelque chose. Et je remarque souvent qu'avec la souffrance, parfois, on confond un peu les choses. Dieu est là pour nous sauver de notre détresse et ce n'est pas celui qui en est la cause. Très important, Dieu est là pour nous sauver de notre détresse, mais ce n'est pas pour ça qu'il en est la cause. On voit souvent que dans nos vies chrétiennes, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai vu qu'à travers certaines épreuves, Dieu m'a fait grandir. Véritablement, j'ai vu, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie. Vous savez très bien que j'ai eu un problème au dos et que je le porte encore parfois. Mais j'ai vu qu'à travers ce problème-là, Dieu a réussi à se glorifier là où ça aurait dû peut-être me mettre sur le côté. Il s'est retrouvé fidèle, disponible, plein d'amour de façon directe ou à travers d'autres personnes qui priaient pour moi. J'ai vu Dieu vraiment me faire grandir spirituellement, me faire grandir physiquement. J'ai vu les choses s'améliorer alors que les choses devaient s'empirer. Et alors on pourrait facilement faire, ah ben voilà, donc en fait c'est Dieu qui a envoyé l'épreuve pour me faire grandir. C'est Dieu qui a envoyé l'épreuve pour me faire grandir. La connexion au cerveau est vite faite. Ça peut aller très vite. Nous vivons dans un monde qui a subi les conséquences du péché. Dieu n'a pas besoin de nous envoyer quoi que ce soit pour que nous vivions des moments difficiles. Souvent, on est capable de le faire par nous-mêmes. Et il est vrai que parfois, dans la Bible, il y a des cas exceptionnels où Dieu a envoyé une épreuve à quelqu'un. Mais faisons attention de ne pas prendre des cas exceptionnels et en faire la généralité. Si un frère ou une sœur à toi a un rhume et qu'il dit que ça vient de Dieu, rassure-le, Dieu ne lui a pas envoyé ce rhume. C'est probablement juste le rhume de saison qui passe. Je partageais, il n'y a pas si longtemps, un jeune qui vit des moments difficiles parce qu'il avait commencé une relation romantique avec quelqu'un qui était de culture différente et la famille l'a appris et c'était difficile pour la famille d'imaginer ces deux cultures travailler ensemble. Et il formulait vraiment qu'il était confronté à du racisme, c'était une épreuve pour lui, et il formulait vraiment que il avait l'impression que Dieu le mettait à l'épreuve. Vraiment, il y avait cette croyance en lui que c'était Dieu qui avait créé cette situation pour le tester, pour le mettre à l'épreuve. Mais je ne pense pas que dans le caractère de Dieu, le racisme a une place. J'en suis même certain que non. Dieu, il voit au-delà des choses des hommes, il voit les cœurs, et il voit ce qu'il y a dans le cœur des gens, et il sait très bien là où les gens sont par rapport à lui. Donc souvent, on pourrait confondre que c'est parce que Dieu nous aide à grandir dans les épreuves qu'il en est la cause. Et ici, on a Paul, dans le chapitre 4 de Corinthiens, qui partage qu'il a passé par des moments d'épreuves, par des moments de souffrance. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il dit. À partir du verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà un message de l'apôtre Paul qui décrit comment il ressent les choses dans son ministère à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chrétiens ou des gens dans la vie qui vivent leur vie et ça a l'air tellement facile. Vous allez chez eux, la maison est rangée. Ils ont 5 enfants, la maison est rangée. Vous ne savez pas comment ils ont fait, mais la maison est propre. Voilà. Quand les enfants dessinent, ils font un dessin, ils ne dépassent pas sur les lignes. Donc vraiment, vraiment, de l'extérieur, on a parfois l'impression que certaines personnes, pour cette personne-là, tout va bien. Lui, il n'y a aucune lutte, aucune pression. En plus, sur Facebook, je vois ses photos, tout va bien. Et on peut imaginer ça, souvent les choses ont l'air plus faciles quand on les regarde de l'extérieur que de l'intérieur. Je sais qu'il y a de nombreux parents dans la pièce, hein, voilà. Élever des enfants, ça a l'air toujours plus facile de l'extérieur que de l'intérieur. Ça, je sais que les parents vont être d'accord avec moi. Il y a longtemps, moi je faisais des arts martiaux quand j'étais adolescent. Et pendant les cours, je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était les points de pression. Les points de pression. C'est quoi les points de pression? Alors, ce sont des petites zones sur notre corps où on a pas mal de terminaisons nerveuses qui se rejoignent. Et lorsque la pression est exercée dessus, ça nous fait réagir. Une façon très facile de tester ça, c'est lorsque vous faites un massage à quelqu'un. Vous pouvez appuyer sur ses épaules et vous allez sentir des points de pression. Si vous appuyez trop fort, il va crier, je vous préviens. Voilà. Mais lorsque l'intensité est impliquée sur les points de pression, ça nous fait parfois réagir. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà massé trop fort ou pas assez fort, mais en tout cas, ce sont des zones sensibles. Quand on appuie dessus, ça nous fait réagir. En plus, si on est chatouilleux, là, ça devient terrible. Il ne faut même pas en parler. L'intensité sur les points de pression, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de savoir à l'avance parfois. Quand quelqu'un propose, imaginez quelqu'un propose de vous masser et puis vous fait mal, vous auriez voulu savoir, non, je ne savais pas que ça allait être aussi fort, il faut se calmer. Et il y a peut-être aussi des moments comme ça dans la vie où on s'engage dans des choses, on va à fond dans quelque chose, mais on aurait voulu savoir la pression qui allait être appliquée. On n'était pas au courant que ça allait être comme ça. J'aurais voulu savoir le niveau de pression alors que ça se passe. Si j'avais su la pression du mariage, je ne serais peut-être pas marié. Peut-être que si j'allais innocemment à un camp d'été en Italie, à Rome, pour aller amener des jeunes là-bas, je ne savais pas que j'allais me retrouver à organiser une conférence pour tous les responsables d'églises européennes et un concert de 5000 personnes, ça allait presque me rendre fou. La pression, quand on gagne en influence, la pression monte. Avec le privilège vient la pression. Parfois on a envie du privilège, mais on n'est pas encore capable de supporter la pression. Dans la lettre aux Corinthiens, on a Paul qui parle comment il vit les choses. C'est pas aussi facile de l'intérieur que de l'extérieur. Il a un point vraiment critique. Ce que j'ai dit sur le mariage, ça peut parfois être aussi, quand je rencontre des parents, si on avait su la pression que c'était d'élever les enfants, on aurait peut-être réfléchi plus longtemps. Alors ça vous paraît peut-être choquant qu'on me propose ce que je dis là, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent absolument désemparés par la pression des événements. Et je ne pense pas que c'est quelque chose où il faut baisser la tête, s'il faut pouvoir l'affronter. Parfois, la pression est tellement forte que je me repose des questions sur mon choix. C'est possible. Le truc aussi avec la pression, c'est que c'est subjectif. Si un adolescent de 16 ans vient me voir et me dire qu'il a le cœur absolument brisé, et voilà, c'est fini pour lui la vie, c'est terminé, elle ne l'aime pas, il va mourir. Peut-être que de mon point de vue, je pourrais me dire avec sagesse, bon, ben, ça va, il va rencontrer quelqu'un d'autre, la vie est longue. Mais pour la personne de 16 ans, elle a vraiment l'impression de mourir à l'intérieur. La pression, c'est vraiment subjectif, on a toujours tendance à minimiser la pression qu'on voit chez les autres. On manque parfois d'empathie, il faut faire attention lorsque quelqu'un nous expose sa pression, qu'on ne la minimise pas. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Souvent, quand on parle de prêcher l'évangile ou de prêcher un message de la part de Dieu, on dit souvent que parfois les jeunes prédicateurs manquent de compassion. Ils ont tendance à être un petit peu plus durs parfois dans leurs propos, parce qu'ils n'ont pas encore peut-être aussi souffert que d'autres, subit autant de pression que d'autres, et donc il n'y a pas encore de l'empathie qui est née pour les gens qui sont peut-être tombés à certains moments. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Autre traduction, nous sommes pressés de tous les côtés, partout en même temps. Je crois qu'il y a des moments où on peut choisir nos batailles, nous sommes concentrés sur quelque chose. Je crois que ici chacun dans la pièce est vraiment capable de supporter une pression majeure qui vient d'une direction, mais c'est lorsque ça vient de tous les côtés. Là, ça devient beaucoup plus difficile. Lorsqu'on a l'impression d'être écrasé. Paul, c'est le héros de la foi qu'on découvre dans le livre des Actes. C'est un espèce de super apôtre qui, malgré la pression, tient et il reste une des personnes la plus inspirante que l'auteur d'Actes a rencontrée. On pense que celui qui a écrit le livre des Actes, c'était un homme qui s'appelait Luc. Et Luc, un petit extrait de Actes, il explique que Paul était prisonnier sur l'île de Malte après avoir échoué avec un bateau et là Paul ils échouent et il fait un discours d'avoir foi en Dieu peu importe les circonstances et Paul il a une vision et il exprime aux gens pour inspirer la foi sur eux, en eux, ils ont échoué sur cette île et Paul là il prêche à tous ces gens qui viennent de s'échouer en bateau et là il y a un serpent qui le mord, qui sort du feu, qui le mord et Paul il reste tout calme, tout cool. Il pleure même pas, il secoue son bras, il est inspirant, il est calme. Est-ce qu'on trouve pas ça génial les chrétiens qui sont comme ça? Ou est-ce qu'on trouve pas ça super embêtant les chrétiens qui sont comme ça? Il y a un serpent qui est mort, il n'y a rien qui les secoue, tout va bien. Et Luc il raconte, Paul secoue le serpent dans le feu et il dit rien et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et il ne meurt pas, il continue, il va dans la maison du maître de l'île, il y a des guérisons extraordinaires qui se passent. Il y a toute l'île qui connaît Jésus. Et c'est incroyable, après il est allé à Rome pendant 2 ans et il continue à prêcher l'évangile. Et là t'as Paul qui dit, c'est pas toujours facile à l'intérieur. C'est pas toujours aussi facile à l'intérieur. De tous les côtés j'avais la pression, dit Paul, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir. Les points de pression, on a beaucoup de phrases qui font du bien quand les choses vont mal. Ça forge le caractère. Ça forge le caractère. Un diamant est formé sous pression. La pression, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que parfois on prend des décisions sous pression et les décisions ne sont pas les plus intelligentes. La pression, il ne faut pas oublier que parfois ça casse. Et pourtant, Dieu ne l'enlève pas toujours. Pourtant, verset 10, toujours avec nous dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Je mourrai à l'intérieur, dit Paul. Verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ce verset indique vraiment que si on ne sait pas quoi faire de la pression, et là c'est vraiment important pour nous, la pression peut nous réduire à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. La pression peut nous mettre dans le désespoir. Si on ne sait pas quoi faire avec le serpent qui sort du feu et qui nous mord, son venin pourrait venir nous tuer. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que faire de la pression? Que faire de la pression? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette pression? Qu'est-ce qu'on en fait? Elle vient de où? Il est important de se rappeler que même si je sers un message éternel, même si je vois des miracles et des prodiges, même si je suis aimé par beaucoup, la fierté peut faire vraiment monter la pression dans la vie. Hein? Je commence à penser que ce que les gens doivent à Dieu, ils le doivent à moi. Et la pression monte. Pour ne pas faire monter la pression, il faut se rappeler qu'on est des vases de terre. On a le trésor en nous, mais on n'est pas encore le trésor. Le trésor, c'est Jésus. On oublie la source de notre puissance et on a parfois la tendance alors à perdre notre force. Mais c'est important de pouvoir rester humble devant le message de la croix. De pouvoir se dire, « Ok, Dieu, il me traite comme un prince de son royaume. Et parfois, je pourrais avoir le point de vue que c'est moi et puis tout le monde autour de moi. Mais non, 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 c'est Jésus et il y a toute l'humanité autour de lui. » C'est ça le message principal de la croix. C'est qu'il y a Jésus et qu'on est tous autour. Pour ne pas faire monter la pression, il faut se rappeler qu'on est vraiment des vases de terre, avec le trésor en nous, bien sûr. Également, ce qui peut se passer dans nos têtes, c'est que la pression monte, parce que j'ai une certaine idée dans ma tête de comment je devrais être en tant que bon chrétien et de comment je suis. Et la différence entre ces deux choses-là, ça crée la pression. Comment je pense devoir agir et comment je pense être, la différence entre les deux, ça crée de la pression. Le responsable de Jésus Révolution, en Belgique, il est fatigué après une mission. Mais c'est quoi ça? Mais le responsable de Jésus Révolution en Belgique, il ne devrait pas être fatigué après une mission, il devrait être en forme. Hein, parfois on a ces standards dans notre tête que personne n'a eu besoin de mettre, on vient se les mettre tout seul. Un chrétien, ça doit agir comme ça. Alors que même, c'est même pas une action du Saint-Esprit, c'est juste on est venu se mettre ça tout seul, on imagine comment on devrait être et on imagine comment on est, et cette différence-là crée la pression. Seigneur, la pression est montée pendant une seconde. J'ai cru que c'était grâce à moi, que tout ce qui se passait. Et la pression s'est fait plus forte. Au moment où la pression monte, il faut vraiment pouvoir se rappeler je viens devant Dieu. Toutes les pressions ne sont pas mauvaises, toutes les pressions ne naissent pas de notre fierté. Certaines viennent des circonstances de la vie, mais à la fin, la chose importante, c'est de pouvoir vraiment... Que faire avec cette pression-là? Je me rappelle un prédicateur anglophone qui disait, selon ses phrases, « You gotta manage the pressure ». Tu dois gérer la pression, c'est ça en français, « manage the pressure ». Il faut gérer la pression. Alors c'était quand même un pasteur d'une église assez énorme, donc il avait un travail, donc du matin au soir, il était sur place dans leur lieu de culte. Hein, et quand il rentrait chez lui, il disait, je passe 30 minutes avec mes enfants à jouer avec eux. 30 minutes. Il arrivait chez lui, peu importe comment la journée s'était passée, 30 minutes avec les enfants où il jouait, mais à des jeux qu'il expliquait, qui étaient peut-être enfantins. Hein, et il disait, peut-être au début, je ne suis pas dedans, mais après 5 minutes, je suis dedans. Et c'est comme ça qu'il avait choisi de gérer cette pression. Si les choses s'étaient mal passées à l'église, s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, ça le recentrait parce que ça remettrait les priorités dans sa vie dans le bon ordre. Ça gardait le plus important, ce qui était vraiment le plus important. Et dans notre vie chrétienne, on peut être inspiré de faire la même chose. À partir du moment où on a décidé c'était quoi le plus important dans la vie, c'est connaître Dieu et le faire connaître, connaître Jésus, échanger des choses. Et ce n'est pas juste connaître son message, mais c'est le connaître intimement, dans l'intimité. Savoir qui c'est ce Dieu qui vient sur terre, faire cette relation avec nous. J'apprends à le connaître chaque jour à travers ma relation avec lui, mais aussi à travers les autres, tels qu'un conjoint. On peut ramener la pression à Dieu. L'ennemi va toujours nous pointer vers ce qu'on n'a pas, vers ce qu'on n'est pas, sur ce qu'on ne sait pas faire. Quand l'ennemi vient appuyer sur tes points de pression, appuie en retour. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, juste avant la croix, il était pressé de tous côtés. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, il y a ses amis qui s'endormaient. Il sentait qu'il y avait une souffrance énorme qui allait arriver. Dans son corps, il y a un truc bizarre que la Bible dit qu'il suait du sang ou quelque chose comme ça. C'était vraiment bizarre physiquement. On a l'impression que Jésus, à ce moment-là, et il est pressé de tous les côtés. Et il va vers Dieu. Et il lui offre sa pression. Job et son histoire, qui est une histoire dans la Bible où un homme qui s'est vraiment, qui a beaucoup souffert, le diable qui dit à Dieu, je vais le mettre sous pression et il va craquer. Je vais le mettre sous pression, je vais appuyer sur les points de pression. C'est intéressant de voir les conséquences de la pression pour ceux qui sont avec Dieu. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, on a lu tout ce que Paul avait subi. Et j'aime bien la terminologie qu'il utilise. Car nos légères afflictions, on avait essayé de le tuer plein de fois. Il avait subi, il était esclave. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul sait très bien que peu importe les souffrances qu'il a dans sa vie aujourd'hui, il n'essaie pas d'acquérir des choses physiques, mais quelque chose de spirituel. Il essaie de transmettre quelque chose de spirituel, de construire un royaume qui est au-delà de ce que le royaume humain est, mais qui est un royaume spirituel. Imaginez pouvoir se présenter devant Dieu après une vie où on a appris à le connaître. Et alors qu'on voit sa face pour la première fois, on sait déjà qui il est. Imaginez, on arrive devant Dieu. Et ce Dieu avec qui on a marché toute notre vie, on voit sa face pour la première fois. Et on sait très bien qui il est parce qu'on a appris à le connaître. Tout ça, ça peut nous aider vraiment à tenir. Je tiens dans ma foi parce que je sais que m'approcher à Dieu est plus important que tout ce que le monde peut m'offrir. Je tiens dans mon mariage parce que je sais que la pression actuelle va porter des bons fruits dans le futur. Quand la pression monte, je fais quoi? Je regarde Jésus et mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis entièrement d'accord. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais ça n'enlève pas la profondeur véritable du message. Lorsque la pression monte, lorsque la vie essaie de nous écraser, nous détruire, qu'est-ce qu'on fait avec cette pression? Dieu, il veut venir nous aider dans ces épreuves-là. lorsque la pression est à son comble, lorsqu'on comprend qu'on ne peut pas porter le poids de l'appel que Dieu a pour nous, alors je suis renouvelé, la pression diminue. Je me rappelle un homme qui disait ça, il dit « L'ennemi veut voler ta joie. L'ennemi veut voler ta joie. L'ennemi veut voler ta joie. Peu importe les circonstances qui se passent dans ta vie, l'ennemi veut voler ta joie. » C'est un homme, je ne sais plus son nom, je sais que certains d'entre vous le connaissent, c'est un homme qui a pas de bras, pas de jambes. Il est évangéliste. Voilà, c'est lui, c'est ça. Et il dit, cet homme, il a vécu une vie avec des souffrances et il a été touché par l'évangile. Et sans bras, sans jambes, il dit, ça m'empêche pas de prêcher l'évangile. Et peu importe les circonstances de ma vie, hein, il y a une chose que l'ennemi veut faire, c'est m'enlever ma joie. Il veut que je sois malheureux. Parce que si j'ai la joie en moi, alors on voit le trésor, on voit ce qui se passe. Puis je me disais, ça a parlé dans ma vie, même avec un mal de dos, je suis tout à fait capable de pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est parce que j'ai mal au dos que je dois être malheureux, qu'on s'apitoie un peu sur notre sort. La capacité des gens qui suivent Jésus, c'est que dans les plus terribles des circonstances, ils sont capables d'être dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les légères afflictions d'aujourd'hui ne sont rien par rapport au poids éternel de gloire que Dieu est en train de donner. Si on donne la pression à Dieu, on lui donne l'opportunité de prendre une situation qui est mauvaise, qui est terrible, et de la transformer en quelque chose de beau, de bien, qui nous construit. Alors humainement, ce n'est pas toujours facile à voir comment Dieu va transformer une malédiction en bénédiction, mais c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est capable de faire. Amen. Amen. Alors je propose qu'on puisse se mettre devant Dieu ce matin et qu'on puisse lui donner l'opportunité de venir nous parler et parler à nos cœurs et de peut-être se remettre en question. Qu'est-ce que je fais de la pression dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de la pression dans ma vie? Quelqu'un disait, j'avais des amis, à chaque fois que j'avais un problème, ils m'emmenaient au bar. C'était sympa, mais ça marchait pas très bien. J'avais d'autres amis, quand j'avais un problème, ils m'emmenaient vers Dieu. Et ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on fait de la pression? Ça, c'est la première question que Dieu, je pense, veut nous poser ce matin. Et puis la deuxième, c'est, est-ce que l'ennemi a volé ta joie? Est-ce que dans la souffrance, dans la pression que tu es en train de subir, qui est actuelle, est-ce que l'ennemi, il a volé ta joie? Est-ce que tu peux regarder à Jésus et voir sa lumière rayonner dans la malédiction qui est sur toi pour la transformer en bénédiction? Amen. Amen. J'invite Géraldo à revenir au piano. Seigneur, on vient devant toi et on veut vraiment te remercier pour ce message de gloire, Seigneur, que tu nous as donné de porter, ce trésor qu'on a dans le cœur. Jésus, je ne connais pas toutes les circonstances de chaque personne dans cette pièce, mais je sais que toi, tu es tout à fait au courant de la pression que les gens subissent. Et Seigneur, je veux vraiment te donner l'autorisation de venir maintenant agir et de relâcher la pression. On veut t'apporter, Seigneur, tous les fardeaux qu'on a, Jésus. Toutes les choses qui nous inquiètent, qui sont un fardeau pour nous, on veut vraiment les mettre devant ta croix, Jésus. On sait très bien, Seigneur, que c'est toi le héros de l'histoire. Qu'on peut prendre un pas en arrière, Seigneur, et te laisser nous aider. Viens vraiment manifester ta présence avec ton esprit ce matin, Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui ont perdu leur joie, dans ton nom, Jésus, je te demande de pouvoir leur redonner maintenant. Je veux interdire à l'ennemi de voler la joie des gens ici. Dans le nom tout puissant de Jésus. La joie que Dieu a mis dans ton cœur, elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu ne faille jamais. La joie du Seigneur. Seigneur, on veut pouvoir garder cette joie silencieuse dans nos cœurs, même quand les circonstances se déchaînent, même quand la vie essaie de nous casser, Jésus. On sait que tu es présent et que tu es le Dieu qui est capable de transformer une malédiction en bénédiction. Viens faire ça, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Viens indiquer à tout le monde que nous sommes des vases d'argile pour un message de gloire. Que quand les gens nous voient, Seigneur, ils puissent se dire, ils n'y sont pas arrivés tout seuls. Il y avait un Dieu céleste qui les aidait. Père céleste, on veut être ouvert à ce que tu veux faire dans nos cœurs. Tu veux vraiment bénir et faire du bien à chaque personne dans cette pièce, Jésus. Je te remercie pour ce que tu as fait pendant ce camp d'été, Seigneur, avec tous les jeunes qui ont pu être porteurs de ce message. Et venir tourner les gens de l'obscurité à ta lumière, Jésus. Merci parce que tu n'es pas venu nous condamner, Jésus, mais nous apporter la vie et la vie en abondance. Parce que tu es venu nous délivrer de notre sort funeste vers lequel on se dirigeait. On veut
recevoir ta vie ce matin, comme chaque jour. Viens faire quelque chose de spécial dans nos vies, Père Céleste. On a besoin de toi. On n'y arrive pas tout seul, Jésus. On a besoin de toi. Pour les autres, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir la prière, je vais vous inviter à vous avancer. On a envie de prier pour vous, de pouvoir se tenir les uns les autres, présenter.